SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Au sommaire de cette édition, protection de l'enfance en Australie, des leaders discutent des limites d'âge sur les réseaux sociaux. En France, le Premier ministre Michel Barnier doit dévoiler sa loi de finances. Principal objectif, ramener le déficit à 5%. Et le président américain Joe Biden s'est entretenu avec Benjamin Netanyahu pour la première fois depuis plusieurs semaines. Un sommet transfrontalier est en cours sur la question des médias sociaux et leur utilisation par les jeunes. Le sommet des deux jours, organisé conjointement par les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australie méridionale, se tient à Sydney. Les discussions devraient se concentrer sur les détails d'une interdiction pour les jeunes plutôt que sur la question de son introduction. L'organisation de santé mentale des jeunes, Reach Out, prévient que la suppression des médias sociaux bloquerait l'accès à ce qui est devenu un soutien clé pour une jeune génération. Mais le Premier ministre Anthony Albanese et de nombreux dirigeants des États ont soutenu une limite d'âge, bien qu'il n'ait pas encore précisé où la limite devrait être fixée. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, de son côté, Chris Minns, a déclaré à Channel 7 qu'ils sont sur la bonne voie.
Every bit of information, every bit of evidence indicates that this does great harm to young people in particular. And if we're going to draw a line in the sand and do no harm so that we can protect young people's childhood, then we need to make this change.
Un rapport du Sénat visant à aborder les limites proposées par le gouvernement fédéral sur les étudiants étrangers indique que le plafond devrait être légiféré moyennant quelques amendements. Le secteur de l'éducation internationale, d'une valeur de 48 milliards de dollars, soutient environ 250 000 emplois à travers l'Australie. En effet, les étudiants étrangers payent des frais trois fois plus élevés que les étudiants nationaux. Et les prestataires d'éducation ont exprimé leur inquiétude en arguant que les plafonds entraîneraient des pertes d'emplois et de revenus, tandis que certains experts affirment qu'il pourrait y avoir des impacts plus larges sur l'économie et la communauté. S'adressant à SBS, le sénateur indépendant David Pocock a déclaré que le projet de loi fait des étudiants internationaux des boucs émissaires.
This bill is immigration policy dressed up as education policy. I'm very concerned that there are going to be unintended consequences from this bill that impact the economy, that impact domestic students. There's a range of things in this bill that people agree with around integrity and standards at universities, but this is really about net overseas migration, which I think we should be dealing with, but this is just scapegoating international students.
Les compagnies aériennes qui bloquent intentionnellement l'accès de leurs concurrents à l'aéroport de Sydney, le plus fréquenté d'Australie, pourraient se voir frappées de sanctions plus sévères en vertu des nouvelles lois visant à éliminer l'accaparement des créneaux. Qantas et Virgin ont été accusés de prendre intentionnellement des créneaux pour des vols qu'elles n'avaient jamais l'intention d'exploiter afin d'empêcher les concurrents de gagner des parts de marché. On signale que l'aéroport de Sydney ne dispose que de 80 créneaux disponibles par heure. Si cette loi était adoptée, elle permettrait au gouvernement d'imposer des sanctions civiles aux compagnies aériennes qui n'utilisent pas leurs créneaux, demandent des créneaux sans perspective raisonnable de les utiliser et ne restituent pas ou ne transfèrent pas les créneaux non utilisés. La ministre des Transports, Catherine King, affirme que ces changements rendront le système de créneaux plus efficace et amélioreront les conditions de voyage pour les passagers. En France, c'est ce jeudi 10 octobre que le gouvernement doit dévoiler sa loi de finances pour l'exercice 2025. Ce texte est très attendu depuis la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier la semaine passée. Le budget prévoit un effort considérable car le gouvernement doit trouver 60 milliards d'euros pour ramener le déficit à 5% l'année prochaine. Mais où trouver l'argent? Quelques pistes ont fuité. Arthur Poncelet.
L'équation est assez simple. Pour économiser, il faut collecter plus et dépenser moins, dépenser beaucoup moins. En l'occurrence, le gouvernement évoque 40 milliards d'euros de coupes budgétaires. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que les services de l'État seront à la diète, à commencer par les collectivités locales, moins 5 milliards d'euros dans leur budget. Autre mesure, le report de 6 mois de la revalorisation des pensions de retraite, ou encore la réduction du fonds vert, cette enveloppe dédiée à la transition écologique des collectivités. Côté recettes, le gouvernement espère trouver 20 milliards d'euros supplémentaires en augmentant d'abord les impôts des 65 000 ménages les plus riches. Les 300 plus grandes entreprises seront également mises à contribution. Un prélèvement exceptionnel d'un an, peut-être deux, d'après Michel Barnier. Aussi dans le viseur du Premier ministre, les secteurs de l'énergie et des transports automobiles et aériens. Ils pourraient tous les deux voir leurs taxes augmenter. Il va encore falloir attendre quelques heures avant de connaître tous les détails. Fin du suspense ce jeudi à 20h.
Et toujours en France, c'est également ce jeudi 10 octobre que doit être publié un rapport sur le coût de la pauvreté. Le collectif Alerte, qui réunit une trentaine d'associations, estime que la pauvreté coûte à l'État près de 120 milliards d'euros chaque année. Noam Léandri, le président du collectif, parle en euros parce que l'exécutif n'entend plus de larmes des personnes à la rue. Il prévient que lutter contre la pauvreté pourrait être un choix payant. On l'écoute au micro de nos confrères de RFI.
Chaque euro que vous allez investir contre la pauvreté va générer des économies ailleurs, au moins à hauteur d'un euro, si ce n'est plus. C'est une étude inédite en France parce qu'il n'y a jamais eu de calcul de ce qu'on appelle le coût-bénéfice, c'est-à-dire combien ça coûterait et combien ça me fera gagner en matière de lutte contre la pauvreté. Ça se pratique davantage dans d'autres pays comme le Canada, l'Angleterre, l'Irlande. L'objectif que nous poursuivons, c'est de convaincre un maximum de parlementaires d'adopter une loi qui engagerait la France dans un objectif d'éradication de la pauvreté. Et pour ça, effectivement, il faut être prêt à investir. C'est de l'investissement social aujourd'hui qu'il faudrait faire pour pouvoir réduire à terme des dépenses publiques qui sont éparpillées, qui sont peut-être pas visibles, mais qui sont liées étroitement en réalité au fait qu'on ait encore 9 millions de pauvres en France.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a récemment regretté que les Occidentaux fassent traîner des livraisons de missiles à longue portée pour son pays, est attendu à Paris ce jeudi 10 octobre pour rencontrer le président Emmanuel Macron. La France continue d'afficher son soutien à l'Ukraine, notamment en termes de formation militaire. On signale que 2300 soldats ukrainiens commencent à être formés par l'armée française. Il y a également ce projet de fourniture d'avions de combat Mirage 2000, un projet qui est en train de prendre forme, précision avec Franck Alexandre.
Tout se joue sur la base aérienne de Nancy où un escadron de l'armée de l'air dispose de Mirage pour l'instruction. Plusieurs pilotes ukrainiens et leurs mécaniciens sont à pied d'œuvre pour dompter le Mirage 2000-5, un appareil initialement destiné à la défense aérienne, sauf que les avions cédés par la France sont en train d'être profondément transformés afin d'assurer un panel bien plus large de missions, précise l'expert aéronautique Xavier Tittelmann.
Les Mirage 2000-5 dans la version classique, ils étaient dédiés à la défense aérienne uniquement avec des portées de missiles qui étaient potentiellement plus courtes que les F-16, sauf que comme ils sont en train d'être modernisés pour intégrer les systèmes de guerre électronique, des radars, une capacité air-sol, on pourra intégrer des systèmes de bombardement. Ils ne savaient pas faire de bombardement dans l'armée française, ils sauront le faire dans l'armée ukrainienne. Ils auront potentiellement des radars qui porteront plus loin, et donc logiquement des missiles qui portent plus loin, c'est-à-dire pour empêcher aux Russes de balancer leurs bombes planantes. Donc on est vraiment sur une modernisation et une montée en puissance du Mirage 2000 qui aujourd'hui va être utile pour les Ukrainiens.
Les Mirage seront opérationnels dans quelques mois et devraient être rejoints par 24 chasseurs-bombardiers F-16 supplémentaires promis par les Pays-Bas, le signe tangible d'une métamorphose des forces aériennes ukrainiennes aux standards occidentaux.
Et le président ukrainien a aussi déclaré qu'il existe une opportunité de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie au plus tard l'année prochaine. Il fait cette déclaration en marge de sa tournée actuelle qui le conduira à Londres, Rome et Berlin ainsi qu'à Paris où il sera ce jeudi. Mais il a laissé entendre que pour pouvoir arriver donc à sa conclusion, donc de pouvoir terminer la guerre d'ici l'année prochaine, l'Ukraine doit faire partie d'un bloc militaire clé.
The first point of the plan focuses on whether the deficit of geopolitical certainty in Europe will be resolved. Does Ukraine have a place in NATO? If yes, and this is properly confirmed, Putin will lose geopolitically. Russia must accept that Europe has borders, independent nations, and each nation has the right to choose its future.
La tournée du président Volodymyr Zelensky à travers l'Europe intervient alors que l'armée ukrainienne est en difficulté sur le front Est face à une armée russe qui grignote du terrain. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont entretenus par téléphone au sujet de la crise au Moyen-Orient. C'est leur première conversation depuis plusieurs semaines. Cette conversation entre Biden et Netanyahu intervient à un moment où la frustration de Biden envers le premier ministre israélien s'accroît et alors que le conflit grandissant au Moyen-Orient ajoute une couche de complexité à l'élection américaine du mois de novembre prochain. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, indique que la conversation a inclus des discussions sur une éventuelle réponse à l'Iran après sa récente attaque de missiles balistiques sur Israël, ainsi que sur les incursions continues d'Israël à Gaza et au Liban contre le Hezbollah. Jean-Pierre affirme que les États-Unis souhaitent voir une désescalade des tensions.
As I stated, they had a productive and honest conversation. We cannot and will not see Lebanon turn into Gaza, into another Gaza. That is not what we want to see.
Crise au Moyen-Orient, mais cette fois-ci en Australie, les leaders religieux musulmans affirment qu'ils ne soutiennent pas l'idée de limiter les manifestations récurrentes liées à la crise au Moyen-Orient. Ces manifestations auraient mis à rude épreuve des ressources policières. Le premier de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a même suggéré que la police devrait être autorisée à refuser les permis de manifester en raison de ses ressources limitées. Ce changement légal a été évoqué en se basant sur les coûts de maintien de l'ordre et fait suite à une importante présence policière lors de la 52e manifestation hebdomadaire consécutive pro-Palestine à Sydney dimanche dernier. Cependant, le réseau des plaidoyers pour la Palestine en Australie affirme que la grande majorité des manifestations au cours de l'année écoulée ont été des expressions pacifiques de solidarité et de justice. Bilal Raouf, porte-parole du Conseil national des imams australiens, a déclaré qu'il existe un large soutien dans la communauté pour les expressions valables de dissidence. Et en Afrique, la République démocratique du Congo a été officiellement élue ce mercredi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, aux côtés du Bénin, de la Gambie, du Kenya et de l'Éthiopie pour le groupe Afrique, et ce malgré la polémique sur les entorses aux droits humains dans le pays. Les cinq pays siégeront pour 3 ans à partir du 1er janvier, donc au Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Et la plateforme des médias sociaux X peut désormais reprendre ses services au Brésil après que la plus haute juridiction du pays lui a donné le feu vert. Le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a ordonné à l'agence de régulation des télécommunications brésilienne Anatel de permettre à X de revenir en ligne dans le pays dans les 24 heures. La plateforme, anciennement connue sous le nom de Twitter, était suspendue depuis fin août pour ne pas avoir respecté les ordonnances du tribunal relatives à la modération des discours haineux et pour ne pas avoir nommé un représentant légal dans le pays. Et pour conclure l'actualité de ce jeudi, un aperçu de la météo à travers les principales villes du pays. Perth, temps ensoleillé avec un maximum de 28 degrés. Adélaïde, ensoleillé également avec 21 degrés. Temps nuageux par intervalle à Melbourne avec un maximum de 17 degrés. Averse ou deux signalés à Hobart avec un maximum de 18 degrés. Temps ensoleillé à Canberra, 23 degrés. Wollongong, nuageux par intervalle avec une température de 23 degrés. Temps nuageux par intervalle à Sydney également avec un maximum de 24 degrés. Nuageux par intervalle pour Newcastle aussi, 25 degrés. Averse ou deux pour Brisbane avec 23 degrés. Cairns, averse ou deux aussi avec 31 degrés. pour Darwin, généralement ensoleillé avec un maximum de 36 degrés. Et ceci clôture l'actualité. Courte pause, puis magazine des sports présenté par Christophe Mallet.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.